Carole Modzelewski, 1937-2019, le parcours d'un militant, mais de quelle politique? Avec le décès le 28 avril dernier de Carole Modzelewski, a disparu un homme qui fut l'une des figures marquantes de l'opposition au régime qui domina la Pologne de 1947 à 1989. Et à cette occasion vient de paraître la traduction française de l'autobiographie qu'il avait publiée en 2013, Nous avons fait galoper l'histoire, confession d'un cavalier usé, édition de la Maison des sciences de l'homme 2019. Il y relate, entre autres, ce que furent les combats, les aspirations de jeunes intellectuels révoltés dans la Pologne d'après-guerre, celles des bureaucrates, de moins en moins staliniens et de plus en plus nationaux, celles aussi des ouvriers contestant périodiquement ce régime au nom d'un idéal socialiste qu'ils piétinaient. On y découvre les contacts de ces jeunes avec les idées du marxisme révolutionnaire et avec des militants trotskistes. On y assiste, de l'intérieur du syndicat Solidarność, à ce qui fut, en 1980-1981, une période d'intense activité de la classe ouvrière, devenue collectivement, économiquement, mais hélas pas politiquement ce que nul ne lui proposa jamais comme objectif, le pivot de la lutte de la population contre un régime honni. Tout cela éclaire rétrospectivement le parcours de Modzelewski, ses choix et les politiques au nom desquelles il a combattu durant 30 ans. L'URSS stalinienne et la Pologne des bureaucrates. Pour comprendre ces événements et ce parcours militant, rappelons dans quel contexte ils se situèrent. Celui du, entre guillemets, bloc de l'Est, un ensemble de pays d'Europe centrale et orientale que l'armée soviétique avait occupé en 1944-1945 au fur et à mesure qu'elle repoussait les armées de Hitler. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la conférence de Yalta, les futurs vainqueurs et pour un temps encore alliés, États-Unis et Grande-Bretagne d'une part, Union soviétique de l'autre, s'étaient partagés l'Europe en zones d'influence. Chacun, dans sa zone, avait la charge de faire régner l'ordre, celui de l'impérialisme et celui de la bureaucratie stalinienne, les deux ayant, malgré tout ce qui les opposait, un commun intérêt. Il voulait empêcher à tout prix que la situation n'enfante, comme lors du premier conflit mondial, une puissante vague de révolutions ouvrières qui ébranle le monde. Une menace bien réelle est d'abord dans les pays dont l'Allemagne nazie avait détruit ou phagocyté le faible appareil d'État. Le vide étatique que cela laissait risquait de se transformer en chaos généralisé. Les États impérialistes et l'URSS de Staline s'attelèrent donc à y restaurer, avant même la fin de la guerre, des appareils d'État capables de briser tout mouvement de la classe ouvrière. Pour cela, à l'Est comme à l'Ouest, les vainqueurs formèrent des gouvernements d'union nationale allant de la droite extrême au stalinien et reconstituèrent surtout au plus vite une police et une armée chargées du maintien de l'ordre en recyclant à tous les niveaux de l'appareil d'État des touviers tchèques et autres papons polonais ou hongrois. Le danger ouvrier s'estompant, et d'abord grâce au rôle de garde-chiourme du prolétariat qu'avaient assumé les partis staliniens dans toute l'Europe, le camp impérialiste n'ayant plus besoin de l'aide du Kremlin, il se lança dans une politique de refoulement de l'influence soviétique. La guerre froide commençait. Menacé de perdre son glacis européen, l'URSS a réagi. D'autant plus brutalement que, même dominés par les partis dits communistes, les gouvernements de l'Est se montraient sensibles aux appels de pied des États-Unis à la promesse des crédits du plan Marshall pour relancer leur économie dévastée par la guerre, un financement que Moscou ne pouvait leur offrir. Alors, de Varsovie à Budapest et Sofia, de Prague à Bucarest, le Kremlin épura les gouvernements de leurs éléments les plus rétifs, força les partis encore tolérés à fusionner avec les PC. Place à ses hommes, et d'abord ceux de sa police politique, à tous les postes de commande et de contrôle. Les entre guillemets démocraties populaires venaient de naître. Leur économie, déjà faible avant 1939, avait été nationalisée à la fin de la guerre par les gouvernements bourgeois nationaux, comme cela s'était fait en France sous De Gaulle, mais à bien plus grande échelle, car les capitalistes d'Europe de l'Est, déjà peu nombreux avant-guerre, avaient été expropriés par la machine de guerre industrielle allemande, avaient été tués ou avaient fui. En quelque sorte, ces gouvernements tenus en laisse par Moscou ne firent qu'ajouter l'épithète entre guillemets socialiste à des transformations économiques largement engagées par leurs prédécesseurs bourgeois. Dans la Pologne où grandit et étudia le jeune Modzelewski, il régnait donc un régime qu'avait établi l'armée de Staline. Le parti unique, dit communiste, le PUP, Parti ouvrier unifié de Pologne, le dirigeait en s'appuyant sur des entreprises étatisées et sur une exploitation de la classe ouvrière d'autant plus féroce que, le pays ayant une économie peu développée, les nantis du régime ne pouvaient compter que sur ce qu'ils arracheraient aux travailleurs pour assurer leurs privilèges. Cet État, dont la police réprimait tout risque d'opposition, se prétendait celui des travailleurs. Mais la classe ouvrière n'avait été pour rien dans sa mise en place, il avait même été fondé contre elle. Elle allait rapidement le prouver en s'affirmant comme la principale force d'opposition à cette dictature, comme le vérifièrent à leurs dépens les équipes dirigeantes successives au fil des confrontations répétées et souvent violentes avec la classe ouvrière, en 1956, 1970, 1980. Du marxisme au, entre guillemets, libéralisme. Modzelewski avait 19 ans quand il participa à ses premiers combats politiques. En cette année 1956, il vit la classe ouvrière se soulever à Poznań et quelques mois plus tard entrer en ébullition dans tout le pays en forçant le régime à quelques concessions. Au cours de ces événements, il noua ses premiers contacts avec des ouvriers en lutte. Affolée devant la menace d'un soulèvement ouvrier généralisé, la direction du PUP s'était cherchée un nouveau chef capable de ramener le calme social. Son choix se porta sur Gomulka, un dirigeant issu du sérail stalinien qui avait été un temps emprisonné. Cela pouvait rassurer Moscou et l'appareil du parti, car en donnant au pouvoir un dirigeant à l'image modérée, cela lui permettait de rallier une bonne partie de l'intelligentsia conservatrice de, entre guillemets, l'octobre polonais et, entre guillemets, la gauche de 1956. Bien plus largement, les milieux de droite, nationalistes, cléricaux, dans et hors l'appareil de l'État, pouvaient savoir gré à Gomulka d'avoir desserré un peu la tutelle soviétique, d'avoir mis fin à la collectivisation à la campagne, d'avoir donné un statut quasi officiel à l'Église catholique, à sa hiérarchie, de l'avoir autorisé à ouvrir des maisons d'édition, plus tard des universités. Tout cela en, ouvrez les guillemets, préservant l'intégrité de la nation, fermez les guillemets, un thème qui revient fréquemment sous la plume de Modzelewski dans son autobiographie, c'est-à-dire en évitant que l'armée du Kremlin n'intervienne, alors qu'au même moment celle-ci noyait dans le sang la révolution ouvrière en Hongrie. Karol Modzelewski, ainsi que son camarade et ami Jacek Kuroń, 1934-2004, avait dénoncé cette duperie du PUP qui, mettant à profit la mobilisation populaire et ouvrière, avait rénové son équipe dirigeante sans que rien de fondamental ne change dans les rapports de domination sociale. Fustigeant le ralliement de la « gauche » de 1956 à l'équipe de Gomulka, qui s'employait à faire cesser l'agitation dans les usines et à neutraliser les conseils ouvriers que le pouvoir avait concédés en 1956 pour sembler donner des gages à la classe ouvrière, Modzelewski et Kuroń avaient autour d'eux un petit milieu partageant leurs idées. En 1957, ils avaient intégré le PUP dans l'espoir d'y faire de la propagande auprès de sa frange ouvrière et estudiantine qui avait souvent été à la pointe de la contestation. Cette activité devint impossible même à l'université et ils furent exclus du parti ainsi que de l'association officielle de la jeunesse, le ZMS. Modzelewski et Kuroń décidèrent alors de faire connaître leur « entre guillemets plateforme idéologique » en une lettre ouverte au PUP. Rédigée début 1965, sa parution fut quelque bruit, même si la Bezpieka, la police politique, en confisqua presque tous les exemplaires. Ses auteurs furent arrêtés et condamnés à 3 ans et demi et 3 ans de prison en juillet 1965. 3 vétérans du mouvement trotskiste en Pologne, auxquels ils s'étaient adressés pour qu'ils les aident à dupliquer la lettre, subirent le même sort peu après. Dans une lettre de protestation, l'historien anglo-polonais et ancien trotskiste Isaac Deutscher apostropha Gomulka. Citation. « Vous n'avez mis en prison et enchaîné aucun de vos trop nombreux et virulents opposants anticommunistes et vous méritez de la considération pour la modération avec laquelle vous les traitez. Mais pourquoi refusez-vous ce traitement à ceux qui vous critiquent sur la gauche ?» Fin de citation. La réponse se trouvait dans la lettre. Elle dressait, citation, « une critique du régime dans le langage marxiste », fin de citation, et formulait un programme révolutionnaire de lutte pour le socialisme qui, s'adressant à la classe ouvrière, lui fixait le but de renverser, citation, « le pouvoir de la bureaucratie », fin de citation. Ouvrez les guillemets. « La révolution, y lisait-on, est indispensable au développement de la société. Elle est aussi inévitable. Mais son développement et son résultat dépendent d'abord du niveau de préparation de l'organisation et du programme de la classe ouvrière, fermez les guillemets. C'était exact et même fondamental pour des révolutionnaires militants dans la classe ouvrière. C'est pourquoi lorsque nous, voix ouvrière, ancêtres de lutte ouvrière, avons eu connaissance de la lettre que venait d'éditer le secrétariat unifié de la 4e internationale, nous en avons salué la, citation, prise de position sans équivoque en faveur de la révolution socialiste, fin de citation, en y voyant, citation, la preuve qu'il existe de l'autre côté du rideau de fer des révolutionnaires qui se sont sérieusement attelés à la tâche de donner au prolétariat des perspectives de combat clair, fin de citation. Lutte de classe numéro 1, février 1967. Dans cet article, tout en nous interrogeant sur les liens éventuels de Kurong et Modzelewski avec telle ou telle tendance du mouvement trotskiste, nous critiquions les, ouvrez les guillemets, lacunes et défauts, fermez les guillemets, dans leurs analyses et plus grave, la, citation, façon nationale d'aborder les problèmes qui est la faiblesse fondamentale du texte, fin de citation. Une perspective erronée dans laquelle ils inscrivaient leur démarche politique et organisationnelle. Une perspective nationale qui restera une constante de leur politique ultérieure et qui allait servir de pont au nom de la défense de la société entre guillemets polonaise ou de l'État entre guillemets polonais entre leur activité militante et celle de forces ouvertement pro-bourgeoises. À peine quelques années plus tard, déçus par la défaite de la contestation étudiante de mars 1968 à Varsovie, puis par la fin du printemps de Prague que l'armée de Moscou avait écrasée en août, Modzelewski écrit, citation, « Mon optimisme révolutionnaire s'était éventé », fin de citation. En vertu de quoi, il dit avoir renoncé à, entre guillemets, « l'utopie », entendez la lutte révolutionnaire de prolétariat pour le socialisme, préférant des objectifs qu'il ne précise pas mais dont on devine qu'il les jugeait plus réalistes. Kurong suivit la même pente. Il le dit dans ses mémoires, citation, « Je considérais donc qu'il fallait cesser d'être marxiste ». Les événements de décembre 1970, la grande révolte ouvrière, commençaient justement. Je pensais tout va de travers. Voilà que je cesse d'être marxiste quand cette philosophie commence précisément à se vérifier. Fin de citation. Modzelewski explique que, comme un grand nombre de militants de cette génération, il fit partie, citation, des acteurs de mars 1968 passés du marxisme au libéralisme. Fin de citation. Des leaders, entre guillemets, ouvriers qui mènent la classe ouvrière à la défaite. S'accordant une pause militante, il reprit ses travaux d'historien et ne revint à la lutte politique qu'en 1980, lors de la création du syndicat indépendant Solidarność, qu'avait imposé au régime des millions de travailleurs en grève. Modzelewski devint le porte-parole national de Solidarność, dont il intégra les cercles dirigeants. Il y retrouva Kurong, qui, depuis 1976, militait au sein du comité de défense des ouvriers, COR, au coude à coude avec des tenants de la libre entreprise et du marché, des partisans de l'instauration d'un État bourgeois entre guillemets normal, c'est-à-dire n'ayant plus les déformations imposées par la guerre froide, et autres entre guillemets libéraux, parmi lesquels nombre de juristes, journalistes et universitaires de la mouvance clérico-nationaliste. Les mêmes que l'on retrouva flanqués des éminences de l'Église catholique comme conseiller de Lech Wałęsa, le dirigeant de la grève de 1980 au chantier Lénine de Gdańsk, devenu président de Solidarność et donc comme inspirateur de la politique de la direction de ce syndicat de 8 millions de membres. Sur cette voie, Modzelewski, il le relate dans son autobiographie en battant sa coulpe au passage car il sait comment cela se termina, allait tantôt s'opposant à des décisions de Wałęsa, qu'il dit avoir désapprouvées, tantôt les faisant appliquer, être de ceux qui, durant les 18 mois d'existence de Solidarność, avant son interdiction, conseillaient aux travailleurs de temporiser face au pouvoir. Il reconnaît qu'ils auraient pu le renverser tant ils mobilisaient derrière eux l'immense majorité de la population, mais qu'il fallait renoncer à aller dans ce sens car il y avait un risque que l'armée du Kremlin intervienne. Au passage, Modzelewski, qui ne cesse de se référer à la entre guillemets polonité, à la ouvrez les guillemets défense de l'intégrité de la nation, fermez les guillemets, ou de ouvrez les guillemets l'État polonais, fermez les guillemets, dit tout le bien qu'il pense du souci très national qu'aurait eu pendant des mois le général-chef du gouvernement et du parti Jaruzelsk, celui d'éviter coûte que coûte une intervention militaire russe contre les ouvriers polonais. Il préférait s'en charger lui-même. On connaît la suite. Durant la période de l'existence légale de Solidarność, le régime, même isolé, complètement discrédité et affaibli, garda l'avantage, car lui était à l'offensive, jusqu'à ce qu'il porte l'estocade en instaurant la loi martiale. Solidarność interdit, ses dirigeants et militants étant internés par milliers, cela cassa les reins à la classe ouvrière et la démoralisa pour toute une période. Voilà où cela mène quand, même dans des conditions favorables, ceux qui prétendent diriger les travailleurs en lutte renoncent par avance à la perspective de renverser le pouvoir en place pour instaurer celui de la classe ouvrière. Car ce qui est en cause, ce n'est pas la classe ouvrière. Modzelewski dit et redit dans son autobiographie que, pendant plus de 30 ans, c'est au nom d'un avenir socialiste qu'elle combattit la dictature, quand bien même ceux qui s'étaient portés à sa tête refusaient ou avaient renoncé à lui proposer une issue révolutionnaire. S'il est un pays en Europe où le prolétariat n'a pratiquement cessé d'affronter le pouvoir durant la seconde moitié du XXe siècle, c'est bien la Pologne. On ne peut réécrire l'histoire et cela ne servirait à rien. Mais c'est dans de pareilles circonstances qu'une petite organisation révolutionnaire aurait pu et dû tenir son rôle auprès du prolétariat en lutte, un programme que traçait précisément la lettre en 1965. Et l'on peut imaginer ce qu'aurait eu de contagieux l'exemple d'un prolétariat polonais victorieux dans le entre guillemets bloc de l'Est, avec des millions de travailleurs confrontés à des régimes et conditions d'existence fort semblables dans les pays voisins de la Pologne. Cela n'a pas été. Dès 1989, avant même l'effondrement de l'URSS, sous le entre guillemets co-gouvernement Jaruzelski-Wałęsa, les travailleurs de Pologne l'ont payé très cher, en démoralisation, en licenciement, en perte brutale de pouvoir d'achat, en plan Balcerowicz de bradage de l'économie nationalisée au profit des requins du capitalisme, surtout mondial, en instauration de gouvernements ultranationalistes, réactionnaires et anti-ouvriers. À la fin de son livre, Modzelewski se désole, disant en substance que ce n'est pas ce qu'il avait voulu, la belle affaire quand les résultats sont là. Avoir une politique révolutionnaire et un programme communiste à proposer. Dans le numéro de juin-juillet 2019 d'Inprekor, qu'édite le bureau exécutif de la 4e Internationale, nouveau nom du secrétariat unifié qui avait publié la lettre fin 1966, Jan Malewski, son rédacteur en chef, a signé un article sur Karol Modzelewski sous le titre « ouvrez les guillemets, une vie de militant pour la fraternité, fermez les guillemets ». Certes, il n'a pas la naïveté ou plutôt l'ignorance des rédacteurs de la entre guillemets tendance claire du NPA qui saluait, citation, un très grand communiste, chapeau bas, fin de citation. L'anticapitaliste, 29 avril 2019. Cela alors que dans son autobiographie, Modzelewski, qui sait pertinemment quel gouffre sépare le stalinisme du communisme, en tout cas il aurait dû l'apprendre à la lecture de Trotsky, non seulement rejette le qualificatif communiste, mais se félicite souvent de la chute du entre guillemets système communiste et autres expressions du même acabit. Venant d'un dirigeant d'un courant qui se dit trotskiste, que peut vouloir dire, citation, un militant pour la fraternité, fin de citation. Le rédacteur d'un bulletin paroissial le sait peut-être, mais on comprend que Malevski soit gêné aux entournures, car celui dont il retrace l'évolution pas vraiment glorieuse fut, durant toute une époque, présenté par la tendance internationale de Malevski comme proche d'elle, et même comme y appartenant, selon l'un des principaux animateurs du secrétariat unifié, Livio Maitan, qui avait bien connu Modzelewski alors que ce dernier profitait d'une bourse d'études en Italie. Relevons à ce propos un point qu'omettent Malevski et Georges Daubeléen, un trotskiste belge qui, entre 1959 et 1964, avait assuré le contact avec Modzelewski, qu'il nomme, citation, « mon camarade et ami », fin de citation, dans le numéro cité d'Inprekor. Dans ses confessions d'un cavalier usé, ce dernier évoque ses contacts personnels de façon distante, quand il n'étale pas son mépris pour le trotskisme en général. Ouvrez la parenthèse. Entre guillemets, un minuscule résidu, écrit-il, page 205, fermez la parenthèse. Et il se répand même en calomnie contre les militants polonais qui lui ont fait connaître les écrits de Trotsky et l'ont aidé techniquement en accusant ces vétérans de la lutte contre le stalinisme et qui l'avaient payé chèrement, l'un d'eux totalisant 18 années de goulag, d'avoir collaboré avec la Bezpieka, page 201 à 207. Quant à l'article de Malevski qui détaille la vie de Modzelewski, en évitant de trop fâcher le lecteur, il s'ouvre sur un épisode qui se veut édifiant. Citation, ouvrez les guillemets, « pour le capitalisme, je n'aurais pas fait 8 ans et demi de prison, pas même un mois ni même une semaine, fermez les guillemets, s'est emporté Karol Modzelewski lors d'une cérémonie anniversaire de la fondation du syndicat Solidarność en entendant Lech Wałęsa, président du syndicat devenu président de la République, dire, ouvrez les guillemets, « Nous avons lutté pour le capitalisme et nous avons gagné, mais nous ne le disions pas car les gens n'auraient pas compris, fermez les guillemets, fin de citation. » Est-ce censé poser Modzelewski en héros de l'anticapitalisme? Cela confirme surtout ce que l'on savait de la politique menée par les cercles de la droite catholique, pro-capitaliste et nationaliste, auxquels Wałęsa appartenait dans la Pologne des années 70-80, des milieux que Modzelewski et Courogne côtoyaient à la tête de Solidarność, voire, pour ce dernier, depuis l'époque du corps. Alors, si cette citation a une utilité, c'est de souligner, de la bouche de Wałęsa qui le déplore, que quand les ouvriers se battaient, ce n'était pas pour le capitalisme. Et cela pose quand même un problème, surtout quand on sait sur quoi cela a débouché, de voir Georges Daubeler écrire, citation, « Ernest Mandel, un des dirigeants du secrétariat unifié SU d'alors, était très satisfait de mon travail de soutien à l'organisation du petit groupe polonais et lui accordait un avenir très efficace. » Fin de citation, bien qu'il reconnaisse qu'en 1962, Modzelewski lui avait redit, citation, qu'il ne se déclarait pas lié à la quatrième internationale, fin de citation. Ou quand on lit la préface dithyrambique que faisait Pierre Franck, le principal dirigeant du SU de l'époque, en mars 1968 pour la seconde édition de la « Lettre ouverte au poupe », la qualifiant sans réserve de, citation, « programme de lutte antibureaucratique pour donner vie à un État ouvrier démocratique dans la tradition de Marx, de Rosa Luxembourg, de Lénine et de Trotsky », fin de citation, ou de, citation, « importante contribution au programme d'un parti révolutionnaire faisant sien le drapeau du marxisme révolutionnaire d'octobre 1917 », fin de citation. Dans cette préface, il n'évoquait même plus le désaccord entre Courogne, Modzelewski et Trotsky sur la caractérisation historique de la bureaucratie, désaccord qu'en septembre 1966, il avait pourtant minimisé à l'extrême en écrivant qu'il y avait là une, citation, « divergence plutôt d'ordre terminologique que politique », fin de citation. Dans ces deux préfaces, Pierre Franck ne trouvait rien de choquant au rôle positif que Modzelewski et Courogne attribuaient à la bureaucratie, celui d'avoir développé l'industrie en Pologne. Et pour cause, l'ESU attribuait lui aussi des vertus à la bureaucratie des pays de l'Est, puisqu'il allait jusqu'à qualifier d'ouvriers ces États constitués contre la classe ouvrière. Quant au fait que les auteurs de la lettre raisonnaient en termes nationaux, en considérant non pas la situation de la Pologne dans un cadre de domination mondiale de l'impérialisme, mais la situation mondiale à partir de l'analyse qu'ils faisaient de la Pologne, l'ESU n'y trouvait rien à redire. Il avait pourtant l'habitude de jouir aux donneurs de leçons en « internationalisme », entre guillemets, mais seulement à l'adresse de tendances qui osaient douter qu'il fût la véritable internationale qu'il prétendait être. Bien sûr, tout cela peut sembler relever de l'histoire ancienne, surtout aux yeux des générations qui n'ont pas connu ce qu'étaient les régimes d'Europe de l'Est, produit des contradictions entre la domination de la bourgeoisie mondiale et le poids de la bureaucratie soviétique qui avait présidé à la mise en place de ces États. Et qui se souvient des affrontements que s'y livraient les forces représentant les intérêts du Kremlin, les tenants d'un État national échappant à la tutelle russe, et la classe ouvrière, qui apparaissait souvent comme la seule force capable d'affronter ces dictatures? C'est bien tout le problème. Cette classe ouvrière en était réduite à se battre seule, sans programme, sans parti ni militant révolutionnaire qui défendent ses intérêts politiques et historiques. Et quand, comme en Pologne, malgré toutes les difficultés, surgissaient de jeunes militants qui voulaient renouer avec le programme et la construction d'organisations véritablement communistes, de partis luttant pour la révolution socialiste mondiale, ce n'était pas leur permettre d'avancer sur cette voie que d'examiner leurs démarches et leurs positions au travers de lunettes roses, car cela interdisait par avance de les aider à corriger leurs lacunes. Que le SU ait agi de la sorte en Pologne n'étonne guère. Cette tendance n'a cessé de présenter la réalité sous des couleurs trompeuses mais pimpantes, dès lors que cela lui permettait de s'accrocher au basque des Mao, Benbella, Guevara, Castro, Ho Chi Minh et autres qui n'avaient rien à voir avec la révolution socialiste prolétarienne, mais qui étaient en vogue dans les milieux auxquels le SU cherchait à plaire, ceux, en général, de la petite bourgeoisie plus ou moins intellectuelle. Certes, s'agissant de Courogne et Modzelewski, l'ESU l'aurait-il voulu qu'il n'aurait peut-être pas pu les gagner et les former véritablement. Mais constatons qu'il n'a même pas tenté de les aider à y voir plus clair par une critique fraternelle entre militants de la même cause. Et puis, même s'ils ont rapidement rompu avec la perspective révolutionnaire après leurs lettres, peut-être aurait-il été possible, en profitant des liens avec eux et avec leur milieu, de développer une critique de leurs idées et ainsi de tenter de gagner d'autres jeunes contestataires aux idées trotskistes. En tout cas, l'ESU ne le fit pas. Il se contenta d'applaudir et continue de le faire, des militants qui ne le souhaitaient même pas. Le paradoxe est que si la confiance en la capacité de la classe ouvrière et d'elle seule à transformer la société était à ce point absente de la politique du SU qu'il qualifiait d'États ouvriers dégénérés, certes, ces démocraties populaires construites contre la classe ouvrière, des modèles qui écorognent, même après avoir rompu avec le marxisme, eux faisaient en une certaine façon confiance à la classe ouvrière. Ils continuaient de s'adresser à elle, non pas pour transformer la société dans un sens socialiste, mais pour se servir de la force collective du monde du travail pour l'enchaîner au char de transformations politiques et sociales que voulait la bourgeoisie nationale et mondiale. Peu importe en fin de compte que des Vahouinsa aient poursuivi consciemment cet objectif et que d'autres n'aient pas voulu en arriver là, comme le prétendit tardivement Modzelewski, qui entra tout de même au Sénat de la Pologne de l'après Jaruzelski, tandis que Kurogn devenait ministre de Vahouinsa durant la période des plus violentes attaques du gouvernement de la entre guillemets, Nouvelle Pologne contre la classe ouvrière. Alors, on peut avoir voulu entre guillemets, faire galoper l'histoire, comme l'écrit Modzelewski. Encore faut-il avoir de solides notions d'équitation et surtout ne pas se tromper de cheval de bataille, ni tromper ceux qui en cherchent un. Avoir du courage personnel, savoir se lier aux travailleurs, tenir à des idées comme Modzelewski et Kurogn l'ont fait, est certes indispensable, mais il faut que ces idées soient les bonnes et avoir un programme à proposer à des militants et à la classe ouvrière qui leur permettent et d'élever leur conscience et d'avancer sur la voie de la révolution ouvrière et communiste. 13 septembre 2019.